Et nous voici rendus à la face B de la deuxième cassette. Mais Seigneur, à la vérité, cette mer debout ne pouvait avoir lieu qu'avec votre accueil, bénédiction et promotion. Les délateurs n'avaient pas, vous le savez, ni le prestige, ni la crédibilité personnelle voulue. Sans vous, la mer debout aurait échoué et n'aurait jamais atteint l'ampleur et la malice qu'elle a eue. Rapidement, permettez-moi donc quatre réflexions personnelles qui se veulent à la fois respectueuses et franches sur la situation que vous avez causée. La première réflexion, pour commencer en douce, disons au strict bas mot que ce n'est pas chic de votre part. Vous me connaissiez fort bien depuis 25 ans. Je n'étais pas si vilain, si désagréable ou si dangereux que cela, puisque vous m'avez moult fois proposé l'épiscopat. Plusieurs d'entre vous, et non des moindres, pourraient d'ailleurs en témoigner. 6 fois, clairement et nettement, en 10 ans, dont 2 fois en tant qu'archevêque éventuel. J'aurais le goût de préciser, en vous taquinant un peu, et dire que si j'avais dit oui, l'un d'entre vous ne serait pas là où il est présentement, et un autre n'aurait pas été où il a été. Je vous laisse le plaisir de résoudre l'énigme. Vous m'avez également confié votre secrétariat général durant plus de 11 ans, me demandant de préparer ce fameux rapport de 1966 qui vous a permis de relancer à fond votre conférence épiscopale au lendemain de Vatican II. Et elle est devenue, par vos efforts et vos mérites, à votre joie et légitime fierté, l'une des meilleures au monde, du moins alors. Tout allait tellement bien, Madame la Marquise, que les évêques anglophones du pays m'ont demandé d'être simultanément leur secrétaire général à eux aussi. Mais après 18 mois d'expérience de ce double défi, j'ai décliné de poursuivre ainsi tout seul, compte tenu de l'étendue et de la diversité de notre pays. 120 archevêques et évêques, c'est toute une armée. Enfin, comme vous le savez déjà, quand j'ai annoncé ma démission comme secrétaire général de l'épiscopat, le Saint-Siège m'a proposé un poste des plus importants à la congrégation qui s'occupe à Rome du choix et de la nomination des évêques en Église. Comment se fait-il alors que tout cela n'ait pas eu au moins un peu de poids et suggéré un peu de retenue pour contrebalancer les accusations d'une bonne sœur et d'un couple laïque qui ont tout confondu et embrouillé mes confidences d'ordre spirituel personnel faites sous le sceau du secret promis? La 50aine d'autres auditeurs et auditrices, témoins de ce partage, et qu'on s'est bien gardé de consulter, n'en ont été ni troublés, ni étonnés, ni mal édifiés, et sont tous demeurés à bord en toute liberté, sans aucune exception. N'est-ce pas Jésus lui-même qui nous a dit, Matthieu 7, 16 et 18, « C'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez les arbres. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. » Deuxième réflexion, disons en outre que ce n'est pas plus édifiant qu'il le faut pour l'Église. Quand des personnes en autorité en Église se lancent éperdument dans le dénigrement et le mangeons-nous, entre eux et autour d'eux, la communauté chrétienne tout entière en reçoit les contre-coups, visibles et invisibles. Et certains d'entre vous, comme vous le savez, n'y sont pas allés de main morte, même au cours de certaines de vos rencontres épiscopales, et personne d'entre vous n'a eu le courage de les exhorter fraternellement à un peu plus de charité, de vérité et de justice. Troisième réflexion, Disons que votre attitude en général a été même scandalisante pour des milliers d'hommes et de femmes d'Église, dont plusieurs sont eux-mêmes bien engagés présentement dans la pastorale, les œuvres et les mouvements de notre Église. Et même les évêques se sont contentés d'être évasifs en disant à gauche et à droite « Méfiez-vous de Monseigneur Mathieu, attention, soyez prudents, gardez vos distances, les évêques ont des doutes, il paraît que, etc., etc. » Ces évêques ont blessé, scandalisé tout autant, car ne précisant rien, car ils n'avaient rien à préciser, ils laissaient soupçonner et conclure toutes sortes de choses, même les plus graves. Quatrième et dernière réflexion sur la situation. Voici ce que j'appellerais la cerise sur le sundae, sur le parfait glacé, ou sur la dame blanche, comme on dirait en Europe. Certains de ces mêmes évêques, qui avec le temps et la grâce de Dieu, sont peu à peu devenus plus conscients de leur grave injustice et ont commencé discrètement à faire marche arrière, sans pour autant le dire ou réparer, car ils tentent de sauver la face, certains, paraît-il, commencent à échapper parfois un ou des compliments à mon sujet. Oui, vous avez bien entendu. Comme par exemple, il semble sincère, Monseigneur Mathieu. Ce serait un prophète. C'est un grand priant. Mais, vite, vite, il s'empresse d'ajouter avec le plus grand culot, oui, mais il fait bande à part. Imaginez la blague. Chers évêques en question, ce n'est pas moi, mais vous qui m'avez en quelque sorte mis à part, mis à l'index, m'avait pointé du doigt comme quelqu'un de pas bon, de pas authentique, à éviter, à fuir, quelqu'un de sectaire, en rupture de banc. Ce sont vos propos, vos insinuations et vos diffamations. De grâce, ne poussez pas ce triste exemple au ridicule en venant ajouter que je fais bande à part. Allons donc, ce serait aussi ridicule que si les Blancs d'Afrique du Sud avaient maintenant le culot de reprocher aux Noirs d'avoir fait ou de vouloir faire bande à part. Je ne demanderais rien de mieux que d'accourir à des rencontres d'évêques, de prêtres, d'hommes et de femmes d'Église de ma région, de mon pays, d'anciens du grand séminaire. Si ceux qui m'ont copieusement sali en ces divers milieux avaient l'élémentaire décence et conscience chrétienne d'avouer leur faute devant Dieu et de réparer en toute justice, humblement et simplement devant mes frères et sœurs, leurs bourdes et leurs bourbes, car eux seuls peuvent nettoyer ces divers milieux où ils ont déversé et laissé déverser de leur boue. Jésus lui-même, on le sait, n'hésitait pas à quitter ou à éviter pour un temps les lieux où il ne se sentait pas désiré ou compris. Je ne peux faire mieux que le Maître. Un manquement grave à la justice, à la charité ou à la vérité, je l'ai souvent proclamé, même s'il est fileté de rouge cardinalis ou de violet épiscopal, demeure, croyez-moi bien, une erreur, une faiblesse, une faute et une honte qui doivent être proportionnellement non seulement regrettées, mais réparées. Le Christ n'a exempté personne de son commandement nouveau. Éminence, Monseigneur, vous l'imaginez bien, ce n'est pas facile pour moi d'adresser à la fois avec franchise et tout le respect dû, et Dieu sait que j'en ai pour vous, une monition fraternelle comme celle-ci à des chefs d'Église qui par ailleurs sont des personnes bien intentionnées et dévouées comme vous. Mais ayant vraiment épuisé les deux premières étapes fixées par Jésus, Matthieu 18, 15 à 18, quand il nous dit « Si ton frère vient à pécher, fais-lui tes reproches seul à seul. Ce qui a été fait à de nombreuses reprises. Ainsi que la deuxième étape, que des témoins interviennent. Ce qui a été fait également. Ces deux étapes étant restées toutes deux sans suite, Jésus dit, s'il refuse d'écouter, dis-le alors à la communauté, à l'autorité et à l'Église. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai dû passer ainsi à la troisième et ultime étape que précise Jésus. Mais notez-le bien, seulement 5 ans après. Mais à tout cela, j'ajoute une autre raison importante. Je me devais de prêter ma voix à ce grand nombre d'autres prêtres, de religieux et religieuses et de laïcs, qui, hélas, sont eux et elles aussi victimes, en Église, de semblables mères de boue, et qui, par gêne ou peur de représailles, ne peuvent, n'osent ou ne savent pas comment se défendre. Croyez-moi, mon Seigneur, cher Père, ces frères et sœurs s'attendaient à trouver en l'Église du Christ des pasteurs et des bergers plutôt enclins à les aimer, les protéger et les secourir qu'à tenter de les battre ou abattre à coups de diffamation. Aussi sont-ils navrés et figés, et pour cause, de constater le traitement qu'on leur sert. Je vous en prie donc de tout mon cœur de prêtre, et au nom du Seigneur d'amour et de miséricorde, et en leur nom à ses frères et sœurs, cessez et faites cesser à jamais ce scandale des scandales en Église. Vous y êtes, et vous y seriez à la longue, beaucoup plus perdants que vos propres victimes, je vous l'assure. Autant je peux, et ils peuvent vous pardonner, nous en avons même le devoir, autant ils ne peuvent pas, ni moi non plus, vous exempter de réparer un tort grave fait à l'Église et en l'Église. Vous en avez toujours le devoir. Et malgré cet incident de parcours, je tiens à vous dire, bien chers évêques, je vous aime. Et je vous respecte, et je vous défends toujours, jour après jour, depuis ma démission comme secrétaire général en 1974 et 75. Je dirais en blaguant que si je vous faisais payer des honoraires chaque fois que j'ai eu ou que j'ai encore l'occasion de vous défendre, de vous expliquer, car croyez-moi, l'ensemble du peuple de Dieu n'a aucune, mais aucune idée souvent, qui vous êtes. Ou ce que vous faites entre les repas, selon l'expression de plusieurs, sauf bien entendu vos propres entourages immédiats, je serais présentement multimillionnaire. Qui sait, je pourrais soutenir financièrement non seulement nos fondations, mais bien d'autres œuvres, et sans doute un jour, certains de vos diocèses en difficulté, du moins dès qu'ils vont se convertir au nouveau style 2 en Église. Mais Seigneur, je vous le dis gentiment. Comptez-vous bien chanceux d'être en fait tombé sur votre humble serviteur, qui vous connaissait de longue date et de fond en comble, et en avait vu, hélas, bien d'autres du genre avant. Un tout autre ecclésiastique ou laïc, devant un tel assaut grave contre la vérité, la justice et la charité, aurait eu amplement raison de plonger soit dans une révolte incroyable, soit dans une dépression profonde. Mais avec sa grâce toute puissante, je suis resté debout et serein dans la tourmente, nullement atteint psychologiquement ou physiquement et grandement enrichi spirituellement. J'ajouterai même, croyez-le ou non, que mon amour et ma miséricorde envers vous et l'Église se sont considérablement augmentés et purifiés. De notre côté, de mon côté, La mission prophétique, pastorale et communautaire en cours, sous le slogan « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage », va donc continuer quand même sa route tracée par le Seigneur. Depuis le début de la mer debout, rien n'a été changé d'ailleurs quant au sens, à la portée, à la destination ou au rythme de cette mission, et rien ne la retardera dans l'avenir. Bien entendu, je ne le cache pas, j'aurais été le premier heureux si l'un ou l'autre évêque du Québec avait été parmi les premiers au monde à entendre et comprendre ce que le Seigneur semble exiger maintenant de son Église, dans le but de la relancer efficacement en ce moment important pour le monde et son avenir. Mais ce n'est pas requis ni indispensable. Jésus n'a-t-il pas dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Par ailleurs, ayant été et étant toujours soutenu et bien discerné personnellement, tant sur le plan du message que sur celui du messager, au fur et à mesure, depuis nombre d'années, par au moins une bonne trentaine de cardinaux, archevêques et évêques compétents et réputés, à l'étranger et au pays, par des centaines de prêtres, des dizaines de milliers de fidèles religieux et laïcs, des théologiens et des spirituels de qualité, je me sens bien à l'aise de continuer ma route, sa route, dans la plus grande sécurité, prudence, joie et paix possible, en plein cœur de notre Église catholique romaine et sur le plan international. Je ne vis d'ailleurs aucune anxiété face à l'attitude et au retard de certains membres de notre épiscopat d'ici. J'éprouve tout au plus avec mes frères et sœurs un chagrin spirituel. Je les aime, je les comprends, et je suis amplement disposé à attendre leur prise de conscience à venir un bon jour. Je suis tout rempli de patience et de miséricorde à ce propos. En outre, même si je souhaite que la dite mer debout soit réparée au plus tôt, parce qu'elle constitue une injustice grave, je dois bien me rendre à l'évidence que malgré tout, à bien des égards, primo, elle a été un genre d'engrais surnaturel pour un très grand nombre, moi inclus, une source de croissance spirituelle assez unique en son genre, et secondo, même davantage, malgré le scandale grave qu'elle cause un peu partout, elle est venue confirmer à sa triste manière que notre Église est bien malade, qu'elle a grand besoin de libération et de guérison, que son style actuel est bel et bien blessé à mort. En terminant ce chapitre, je dis donc à ces quelques évêques québécois, car c'est seulement un petit nombre, et non la majorité, qui sont directement concernés et peut-être momentanément consternés par tout ce que ce chapitre 5 précise, révèle et dénonce, je leur redis avec mon cœur de pasteur d'âme, devant mon bon papa du ciel, le plus sincèrement possible et le plus utilement, je l'espère, que je ne reviendrai plus publiquement sur le sujet. C'était la toute première fois et ce sera la toute dernière fois. Je dis à ces évêques que je vous pardonne de tout cœur et que je vous prie de vous laisser exhorter et conseiller fraternellement par vos collègues évêques qui, eux, ne se sont pas laissés entraîner dans cette mésaventure. Et je sais pertinemment qu'il y en a qui sont prêts à vous aider à sortir élégamment et chrétiennement de cette impasse, de ce pétrin. Laissez-vous donc aider. Allez en paix. Pax vobis. Et ne péchez vraiment plus de la sorte. Et passons maintenant au sixième et dernier chapitre de cette seconde partie, intitulé « Toute la question du choix et de la nomination des évêques et des supérieurs majeurs de communautés religieuses est à repenser ». Je n'aurai pas l'occasion d'élaborer longuement sur ce point aujourd'hui, faute de temps. Ce ne sera que partie remise. Mais permettez-moi quelques affirmations choc en guise d'amorce à un éventuel partage fraternel sur ce thème. Malgré les louables efforts postconciliaires, la méthode actuelle de ces choix et nominations, même corrigée et améliorée, demeure nettement déficiente et dommageable au bien commun de l'Église. Le pourcentage est encore trop élevé. D'une part, des candidats qui ont été vraiment appelés par l'Esprit du Seigneur et qui ne parviennent pas à l'épiscopat ou au supérieurat majeur de communautés religieuses à cause d'intrigues, de susceptibilité, de manigances, de rivalité et de jalousie. Et d'autre part, de ceux et de celles qui y accèdent sans être en fait les vrais élus de l'Esprit du Seigneur, tout simplement par népotisme, pression d'influents protecteurs ou sous pression, sans discernement spirituel valable et libre, tant on leur tord le poignet et on les contraint d'accepter. Voyez-vous ce qui me serait arrivé personnellement si j'avais cédé aux fortes pressions et très courts délais qu'on voulait m'imposer? J'aurais certes accepté l'épiscopat. Je serais fort probablement, aujourd'hui, emprisonné, moi aussi, dans le style 1 actuel, blessé à mort. Alors qu'ayant imposé chaque fois mon désir de pouvoir prendre tout le temps de discerner le tout, calmement et librement avec le Seigneur, j'ai pu saisir son plan véritable pour moi, en son Église, et accomplir aujourd'hui la mission qu'il m'avait préparée d'avance pour que je m'y engage, comme dit saint Paul aux Éphésiens 2:10. Dieu soit loué, et moi y tout. Nous y reviendrons. Passons, si vous le voulez bien, à la troisième partie, une Église en transition. Chapitre 1, un embrouillamini incroyable nous attend. Une confusion sans précédent, temporaire et providentielle. Oui, Monseigneur, Éminence, cher Père, vous allez et nous allons en voir de toutes les couleurs au cours des prochaines années. Et ce ne sera pas toujours uniquement du violet épiscopal, du rouge cardinaliste ou du jaune et blanc papal. Le grand nettoyage en et de l'Église, même sous la mouvance de l'Esprit et avec le renouvellement des cœurs et des esprits, ne se fera pas sans douleur, sans heurts ni sans peur. Les abcès chauds et froids vont éclater en série. Et il faudra les vider, en extirper tout le mal. Si vous regardez le plan, j'énonce certains de ces phénomènes qui vont se produire au cours des prochaines années, au cœur de notre Église en transition. D'abord, deux grandes prophéties séculaires et importantes vont éclater en même temps. Il va y avoir, soudainement, plus de manifestations nouvelles de l'Esprit que jamais, comme on le lit dans la profession de Joël, il arrivera, je cite 3:1-5, « Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Donc, il va y avoir soudainement plus de manifestations nouvelles de l'esprit que jamais auparavant. Mais, La prophétie d'Ésaïe 6, 9, 10 nous dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir. Et je les aurai guéris. » Donc, plus de manifestations et moins d'hommes et de femmes que jamais aptes à comprendre, discerner et conseiller. Ce serait un peu comme si en même temps on subissait une pluie torrentielle au même temps qu'il y a une pénurie de parapluies et d'imperméables. Deuxième phénomène, une explosion inimaginable de suffisance en Église, d'outrecuidance. Qu'on le veuille ou non, les anémiques spirituels vont être de plus en plus provoqués, agacés, irrités même par l'assurance, le calme, la sérénité des vrais spirituels, lesquels vont reprendre du poil de la bête, se ressaisir, vont être soutenus par des lumières et des forces divines surabondantes. Et veut, veut pas, même sans ouvrir la bouche, par leur seul silence éloquent spirituellement, ils vont devenir une menace, une cause de plus grande insécurité pour les sages et intelligents qui se croyaient en poste d'influence et de force ad vitam aeternam. Ceux-ci vont sentir leur emprise ou leur empire leur échapper, et comme personne n'aime a priori perdre la face, son soi-disant prestige ou sa respectabilité, les complexes, les réflexes et les prétextes, c'est le cas de le dire, vont s'alerter, se liguer et se battre à mort sous le slogan « What we have, we hold ». Ce qu'on a, on y tient et on ne lâche pas. Et là, mes frères et sœurs, tenons-nous-le pour déjà prévenu, on va en voir et en entendre des vertes et des pas vertes, des aigres douces et des surettes, ce sera le gala de la suffisance. Et les flambées d'orgueil blessé et blessant vont être particulièrement acides et virulentes. Je réitère donc à ceux et celles qui sont et seront déjà saisis par la grâce du style 2, mon conseil fréquent, de se tenir bien tranquille, de ne pas succomber à la tentation d'argumenter, de s'offusquer, de vouloir se défendre. L'Esprit du Seigneur va agir lui-même, en direct, à même ses bourdes et ses bourbes. Il n'a vraiment pas besoin de nos interventions, de nos mises en garde ou de nos mises au point. La suffisance qui repose en fait sur l'insuffisance finit tôt ou tard par se dégonfler. Et le Seigneur a bien des trucs pour dessouffler le ballon des orgueilleux. N'a-t-on pas lu des milliers de fois au cantique de Marie, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. N'ayons donc aucune crainte. Pour bien de ces hommes et femmes d'Église, la panique aidant, tous les grands moyens et les gros mots seront bons pour tenter de mater ce qu'ils vont prendre pour une mutinerie à bord, une rébellion contre eux et elles, alors qu'en fait, ce sera plutôt une saine et sainte évolution de l'Église, une révolution spirituelle, moussé et poussé par nul autre que l'Esprit du Seigneur, qui veut enfin, selon le saint vouloir du Père, redonner l'Église à son Fils Jésus, qui d'ailleurs, nous dit saint Paul, s'est livré pour elle, pour qu'elle soit enfin splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut, bref, sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25, 27. Leurs excès, conséquence de leur orgueil blessé, ne feront qu'accélérer et qu'accentuer cette métamorphose. Il y aura également, en troisième lieu, une amertume et une agressivité sourde dans le peuple de Dieu. Ça aussi, ça va être inévitable. En effet, à l'heure de la grande purification intense et universelle des âmes qui s'en vient, j'en ai longuement parlé au chapitre 5 de la cassette sur le Big Bang spirituel, non seulement chacun va découvrir ses lacunes, fautes et méprises personnelles, mais chacun et chacune va également, grâce aux lumières de l'Esprit du Seigneur, pouvoir retracer où, quand et comment il a été induit en erreur. Le peuple de Dieu, tout en poursuivant son examen de conscience intensif, sur le plan individuel d'abord, comme il se doit, en arrivera, veut pas, à prier ceux et celles qui les ont peu ou pas éclairés, les ont plus ou moins laissés tomber spirituellement parlant, les ont déçus, sevrés ou même trompés, volontairement ou non, à bien vouloir s'expliquer et à rendre leur compte. On sentira alors gronder un peu partout cette amertume, cette sourde agressivité chez toutes ces âmes blessées par leur pasteur, chef ou docteur. Ici encore, prions fort pour que, moyennant les saintes grâces divines, rien d'inutile, de grave ou d'injuste n'éclate violemment. Il faudra plus que jamais savoir pardonner et comprendre ceux et celles qui n'avaient pas compris. Une autre manifestation, c'est le syndrome de la tour de Babel. On connaîtra plus que jamais le choc et la querelle pratiquement inévitable des vocabulaires. D'une part, le vocabulaire ecclésiastique et théologique traditionnel, de plus en plus sophistiqué, recherché, compliqué, affecté, que d'ailleurs les fidèles comprennent de moins en moins, n'écoutent plus parce qu'ils le sentent souvent vide et frelaté, et d'autre part, le vocabulaire archi-simple, clair, net, significatif, des tout-petits devant Dieu, de ceux et de celles qui vivent sous la mouvance de l'Esprit du Seigneur. Le partage de leur vécu est vite capté, goûté, apprécié par ceux et celles qui ont les mêmes lumières et forces. On verra également les piédestaux fondre comme de la glace au soleil. Qui s'élève sera abaissé, a dit le maître, et c'est ce qui va se produire rapidement au cours des prochaines années. Personne n'aura même à faire l'effort de renverser ces piédestaux ou de les bousculer, ceux et celles qui y sont surélevés ou s'y sont grimpés et installés en dominant, en pontife, en homme ou femme de pouvoir, vont tout à coup prendre un coup d'ascenseur par en bas et se retrouver, de par la grâce de Dieu, les pieds bien à terre sur le plancher des vaches. Il y aura également la fin d'un role-playing spirituel. Dans l'Église en transition, n'auront droit au chapitre en Église renouvelée que ceux et celles qui sauront dire ce qu'ils vivent et vivent ce qu'ils disent. Le partage du vécu spirituel sera notre indispensable carte de crédit. Ce sera donc la fin de carrière certaine pour les beaux parleurs spirituels, les hauts parleurs spirituels, les seulement érudits spirituels, les charmeurs ou les jongleurs spirituels, seront désirés, écoutés et appréciés ceux et celles qui, comme Jésus, pourront dire « Je vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur est dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et enfin, ce sera un libéranos dominé du fonctionnarisme d'Église. Ce sera son démantèlement par désœuvrement. Il est en effet honteux de voir tant de prêtres en Église, à Rome, dans les 100 diocésains, qui sont consacrés à toutes sortes d'activités purement administratives et expéditives, toutes autres, souvent, que celles pour lesquelles ils ont reçu l'appel de Jésus au sacerdoce et qu'ils avaient décidé de consacrer leur vie au Seigneur. J'en ai connu, d'ailleurs, plusieurs douzaines, à la conférence épiscopale et dans nos évêchés québécois et canadiens, et sans doute à l'étranger, qui y ont tout simplement perdu, les uns leur vocation sacerdotale et les autres même leur foi. On manque de prêtres un peu partout et par ailleurs on se paie le luxe d'en gaspiller la vie de plusieurs. À mon avis, un prêtre qui n'a pas un temps, non seulement minimum, mais abondant, surabondant, consacré régulièrement au jour le jour, d'une part à l'écoute du Seigneur et d'autre part à l'écoute des âmes, se dessèche peu à peu, veut, veut pas. Et un prêtre desséché ainsi devient facilement et souvent un malheureux qui s'ignore, un simple fonctionnaire comme les autres et un contre-témoignage certain en Église. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'occupe de pastoral qu'il est ipso facto vrai pasteur d'âmes, qui éclaire, tonifie et sauve les âmes en recherche ou en route. Et je pourrais ajouter, les mêmes réserves s'appliquent avec les adaptations appropriées à nombre de pères, sœurs et frères religieux qui s'y brûlent également. Et jetant un coup d'œil maintenant sur le cadran, je m'aperçois que nous n'aurons pas le temps de parcourir le chapitre 2 de cette troisième partie. Et je passe immédiatement à la conclusion. Monseigneur, éminence, quand une alarme sonne, il y a habituellement quatre réactions classiques. Il y a ceux et celles qui ne bougent pas, par principe s'opposent aux alarmes, et pour les déranger, il faut plusieurs rappels. Il y a ceux qui répondent à une alarme, dans l'ordre et le calme, heureux d'avoir été prévenu, même si cela s'avérait inutile. Il y a troisièmement ceux qui deviennent alarmés, paniquent facilement, et finalement, en quatrième lieu, il y a ceux qui s'insurgent et accusent d'alarmistes ceux et celles qui ont osé ainsi sonner l'alarme. Le Big Bang spirituel, la présente interpellation aux archevêques et évêques et la prochaine cassette sur Jean-Paul II vont toutes trois sonner l'alarme. Il n'y a rien que vous ou moi puissions y faire, mais on va retrouver inévitablement ces quatre types classiques de réactions. Ceux qui ne bougeront pas, ceux qui vont bouger de la bonne manière et pour leur bien, ceux qui vont s'alarmer eux-mêmes et ceux qui vont me reprocher d'avoir osé sonner l'alarme. Au moment où l'Église va connaître un printemps ecclésiastique ou ecclésial sans précédent, à l'heure du grand Big Bang spirituel en cours, s'il est un chapitre de la Bible qui acquiert à nouveau un caractère de brûlante actualité, c'est bien le chapitre 34 au grand complet du prophète Ézéchiel, chapitre intitulé « Les pasteurs et les bergers d'Israël ». On dira même à la vérité que le Seigneur vient de faire ces déclarations-là la semaine dernière, tellement cela couvre et décrit bien la situation présente de l'Église. Chacun d'entre nous se fait dire son fait, s'y fait servir son plat. Tant les brebis qui ont exploité les autres brebis et tiré avantage du style actuel en Église, que les pasteurs qui, abusant de leur statut, n'ont pas su paître leur troupeau, et le Seigneur conclut, « Devant cette impasse, j'aurai soin moi-même à l'avenir de mon troupeau et je m'occuperai de mes brebis. » Recueillons-nous et écoutons, avec les oreilles du cœur, un extrait forcément court de chacune de ces trois interpellations du Seigneur. La semonce aux brebis. Quant à vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Non content de paître dans de bons pâturages, vous foulez aux pieds le reste de votre pâturage. Non content de boire une eau limpide, vous troublez le reste avec vos pieds. Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Eh bien, ainsi leur parle le Seigneur Yahvé. Me voici, je vais juger entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez frappé des reins et de l'épaule et donné des coups de corne à toutes les brebis souffreteuses, jusqu'à les disperser au dehors, je vais venir sauver mes brebis pour qu'elles ne soient plus au pillage. Et je vais juger entre brebis et brebis. Semonce au pasteur. Eh bien, pasteur, écoutez la parole de Yahvé. Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, je le jure, parce que mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne s'occupent pas de mon troupeau, parce que mes pasteurs se paissent eux-mêmes sans paître mon troupeau, eh bien, pasteur, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici, je me déclare contre les pasteurs. Je leur reprendrai mon troupeau et désormais, je les empêcherai de paître mon troupeau. Ainsi, les pasteurs ne se paîtront plus eux-mêmes et j'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Et son choix de solution devant l'impasse actuelle? Car ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, et je m'en occuperai. Car un pasteur s'occupe de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis épargnées, éparpillées. Je m'occuperai de mes brebis. Je les retirerai de tous les lieux où elles furent dispersées, au jour de nuées et de ténèbres. C'est moi qui ferai paître mes brebis, et c'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur Yahvé. Je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle, je les ferai paître avec justice. Acclamons, mes frères, cette parole du Seigneur et sur ce texte de brûlante actualité, terminons en disant Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia.